Mais il ne faut pas de scories, justement. Le moins de scories il y aura, le plus l'employeur il trouvera son bénéfice. Et tous les débats qu'il y a eu autour des 35 heures sur qu'est-ce qui rentrait dans le temps de travail, qu'est-ce qui n'y rentrait pas, les pauses, l'habillage, joindre son lieu de travail, ça peut être des kilomètres sous un tunnel, tout ça faisait effectivement partie du débat. C'est un enjeu énorme. Et là, on se trouve dans une situation qui, à mon avis, se caractérise par le fait qu'il n'y a plus de compromis. C'est-à-dire qu'on n'a plus un rapport de force qui soit de telle sorte qu'il y ait des organisations, notamment syndicales, capables de défendre l'intérêt des salariés, de peser sur le...
Alors pourquoi cet affaiblissement syndical ?
Alors l'affaiblissement syndical, c'est une longue histoire qui remonte à 68. Hein. En 68, ce qu'il est apparu, c'est qu'il y avait un désaccord entre les politiques revendicatives des syndicats qui demandaient sans cesse une augmentation de salaire sans se préoccuper en aucune façon de ce qu'on appelle la qualité de la vie au travail. C'est-à-dire comment est-ce que les salariés travaillaient et qu'est-ce que l'employeur exigeait d'eux. C'est une question qui n'est apparue véritablement qu'au cours de 68. À partir de cette question fondamentale qui est, nous voulons une vie plus supportable dans notre milieu de travail et nous ne voulons pas uniquement compter sur le temps de loisir pour vivre et pour nous réaliser. Donc il y a eu un décalage à ce moment-là et les syndicats n'ont pas évolué suffisamment vite parce qu'ils n'avaient pas le savoir-faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on négocie l'organisation du travail ? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'à ce moment-là, on risque de dresser des catégories les unes contre les autres, des catégories professionnelles. Si on va améliorer le sort des OS en bas, par exemple, ça veut dire qu'on va grignoter sur les prérogatives, les petites prérogatives professionnelles des ouvriers plus qualifiés. Et si on développe les ouvriers plus qualifiés, on améliore leur sort, on va grignoter sur les petits privilèges professionnels des techniciens, puis des cadres, et ça remonte en cascade. Donc c'est vrai que du point de vue syndical, et notamment dans la tradition française, il était plus aisé de revendiquer des augmentations salariales pour tous. Personne ne pouvait être en désaccord. Mais commencer à s'ingérer dans ce qui relève de l'organisation du travail, ça posait des problèmes insurmontables. Et c'est à ce moment-là que les syndicats ont commencé à se défaire et qu'on a vu une offensive patronale beaucoup plus aisée pour imposer ce qui lui convenait. Et notamment...
Ce qui lui convenait, c'était la précarisation générale, ce qui entraîne la désyndicalisation aussi.
Alors, c'était essentiellement la désyndicalisation, c'est-à-dire... limiter les effets néfastes de l'organisation syndicale sur la réalité du travail dans les entreprises, et notamment ça passait par ce que le patronat de l'époque appelait une démassification, c'est-à-dire comment mieux inverser le rapport de force que en individualisation. C'est-à-dire qu'il fallait sortir de cette logique de confrontation massive du point de vue du patronat entre une classe ouvrière homogène, compacte, et puis le patronat. Donc, l'idée d'une individualisation s'est faite jour dans cette période-là, très clairement, d'ailleurs, puisqu'aux assises du patronat à Marseille en 1972, il a été explicitement proposé comme alternative pour sortir de la crise de procéder à une individualisation systématique. Alors, ce qui était intéressant à l'époque du point de vue du patronat, c'est l'ambivalence fantastique de ce choix stratégique d'individualisation, parce que d'un côté, évidemment, ça a entraîné une vulnérabilisation extrême de la classe ouvrière, mais de l'autre côté, ça allait dans le sens du poil, puisque ça répondait à certaines attentes qui s'étaient manifestées au cours de 68. Nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagner, nous sommes tous des femmes, nous sommes des jeunes, nous sommes... Cette idée de spécifier un petit peu chaque salarié, de reconnaître sa valeur, la valorisation de la personne, ça faisait aussi partie des revendications qu'on entendait dans les manifestations et dans les usines à cette époque-là. Donc le patronat a finement joué sur cet aspect ambivalent, c'est-à-dire nous sommes à l'écoute de nos salariés, nous entendons qu'ils cherchent à se valoriser, qu'ils veulent être reconnus pour ce qu'ils sont. Donc nous allons nous tourner vers leur intelligence et nous allons les mobiliser individuellement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, s'est mis en place toute une politique d'individualisation des horaires, des augmentations de salaire, des classifications, avec par exemple comme aboutissement l'entretien individuel où chaque salarié quasiment négocie son rapport avec sa hiérarchie et son entreprise, puisque il définit lui-même avec son supérieur les objectifs qu'il va se fixer, et puis l'année suivante, il va évaluer ses performances, et du coup, ça va entraîner une définition un peu de son avenir professionnel dans l'entreprise, est-ce qu'il va avoir des promotions, est-ce qu'il va avoir des formations, est-ce qu'il va avoir des augmentations de salaire. Donc, si vous voulez, cette idée d'individualisation s'est développée, s'est mise en place dans le cadre d'un rapport de force qu'il s'agissait d'inverser, et puis a rencontré une conjoncture qui se transformait. À partir des années 80, on a bien vu quelle était la teneur de la crise, les dimensions plus importantes qualitatives, de réaction, d'innovation étaient mises en avant et allaient tout naturellement dans le sens d'une personnalisation du rapport au travail, d'une individualisation de la relation salariale, avec aussi une montée en puissance dans notre économie du secteur tertiaire et notamment des services, où l'idée d'un travail beaucoup plus interactif est difficile à tailoriser, etc., s'est avancée. Et donc, tout cela a fait corps, tout ça a pris sens, et nous sommes maintenant dans une situation où l'individualisation est parvenue à maturité dans tous les secteurs du monde du travail, avec même une singularisation. Et du coup, avoir un contrat de travail spécifique pour les seniors, un contrat de travail spécifique pour les jeunes, un autre, ça va être pour les handicapés, pour les femmes à temps partiel, etc. Ça rentre tout à fait dans ce cadre, à la fois d'une atomisation, d'une vulnérabilisation, d'une classe de salariés qui n'est plus susceptible, qui n'est plus en mesure de négocier ses intérêts et de défendre son avenir. Et puis, ça va aussi dans le sens de ce que j'appelle la marchandisation, c'est-à-dire qu'on va obtenir des situations d'emploi et de travail où on va prendre les gens exactement au moment où on en aura besoin, au meilleur moment de leur forme à eux, c'est-à-dire qu'on va réclamer l'excellence et donc on va les prendre de tel âge à tel âge parce qu'ils auront la meilleure vue si on a besoin de gens qui aient une bonne vue, la meilleure le meilleur dévouement, le meilleur engagement, c'est-à-dire quelque chose de plus en plus ciblé, on va les prendre au moment où ils sont les meilleurs. Pour le moment où on a le plus besoin, on va leur demander un engagement total, et c'est les termes d'un mercenariat maintenant d'entreprise qui a son idéologie, son éthique, d'engagement à fond, d'excellence, le temps dont on a besoin d'eux.